Bonjour, le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Il y a plein de défis qu'on doit relever. Amen. Plein de défis qu'on doit relever. Donc, il faut continuer à prier. Ne te laisse pas emporter par les activités de la semaine. La semaine, on est tous pris. Mais assure-toi toujours que malgré les activités, ton esprit est toujours connecté, toujours alerte. Et c'est pour cela qu'il faut toujours prier. Il ne faut pas te laisser aller à la fatigue et à l'assoupissement. Tu es tellement fatigué, tu ne te disciplines pas dans ce que tu fais dans la journée, que le soir, quand tu rentres, tu es KO. Et le matin, quand tu te lèves en retard et tu n'as pas le temps de prier ni de lire ta Bible. Il faut rester connecté. Il faut rester connecté, c'est très important parce que Dieu travaille et nous aussi, nous devons continuer à travailler. Amen. Voilà, donc nous sommes en jeûne et prière jusqu'à vendredi. D'autre part, le frère Rodrigue a parlé des cours, des fondements du royaume qui ont débuté hier. Donc effectivement, les inscriptions sont ouvertes. Hier, on a passé un très très bon moment dans l'enseignement et dans le partage. Et ma prière, c'est qu'on soit encore plus nombreux. Ces cours sont très importants, je vous assure, ne les négligez pas, pour la simple et bonne raison qu'on revient sur des aspects très importants qu'on a abordés ici durant les semaines précédentes et durant les mois précédents. Beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés il y a quelques semaines, mais il y a beaucoup de choses qu'on a vues depuis maintenant un an. Et on revient dessus, on revient sur les fondements, on revient sur les bases. Si tu veux construire un immeuble de 10 étages, tu mettras un certain fondement. Si tu veux construire un immeuble de 100 étages, tu ne pourras pas mettre le même fondement. Plus l'immeuble sera grand et plus le fondement devra être profond. Est-ce qu'on me suit? Hein? Donc, si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu veux faire des choses extraordinaires avec Dieu, si tu veux que Dieu fasse des exploits dans ta vie, alors va falloir que tu rentres en profondeur dans la parole. Parce que je t'assure, sur le chemin de la réussite, tout n'est pas rose. Sur la route du succès, tu auras des montagnes qui se tiendront devant toi et qui te diront, tu ne passeras pas. Et si tu es faible, tu vas tomber. Tu vas tomber. Quand tu vois quelqu'un qui est au sommet et qui fait des choses extraordinaires, qui gagne énormément d'argent, c'est parce que derrière, il y a des victoires qui ont été remportées, mon ami. Derrière toute gloire, il y a toujours une histoire. Toujours. Il y a toujours une histoire. Tu ne vois jamais quelqu'un qui arrive en haut comme ça. Il n'y a que Satan qui met les gens tout de suite en haut pour mieux les précipiter après. Mais Dieu, il passe toujours par la voie normale. Tu dois toujours avancer petit à petit, commencer petit, petit à petit, petit à petit. Et petit à petit, tu montes avec le Seigneur, tu montes en échelon, tu montes de progrès en progrès. Mais sur le chemin du succès, sur la route du succès, tu vas devoir travailler, tu vas devoir payer le prix, tu vas devoir faire des sacrifices, tu vas devoir te consacrer à Dieu parce que le temps viendra, je t'assure, où la tempête soufflera sur ta vie. Et quand la tempête va souffler, quand le malheur va venir frapper à ta porte, ou bien quand tu vas vivre la trahison, ou bien on va venir te poignarder dans le dos, ou bien quelqu'un va t'abandonner, celui sur qui tu comptais t'a abandonné, etc., je t'assure, tu n'auras que le Seigneur. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont inconsolables? Des gens qui ont perdu quelqu'un, des gens qui ont vécu une situation tellement douloureuse que tu ne peux pas les consoler. Tu peux juste revenir à côté et rester là avec lui et l'écouter pleurer. Parce que c'est difficile. Il y a des périodes qui sont tellement difficiles qu'on ne peut pas consoler la personne. Mais pendant ces périodes-là, il n'y a que Dieu qui peut te consoler. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, comment tu vas faire? Ça va être chaud, hein? Donc, il faut se consacrer, il faut travailler, il faut prier, il faut poser les bons fondements de sorte que lorsque la tempête soufflera sur la maison tiendra et elle ne s'écroulera pas. Et tu ne t'écrouleras pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi?
Amen.
Gloire à Dieu. Nous sommes toujours sur notre sur notre série, est-ce qu'on peut dire avec moi les fondements du royaume pour se préparer au mariage avec succès? Qui veut se marier ici? Levez la main. Levez la main, arrêtez de jouer les modestes là. Tu veux te marier? Ah, c'est les gens, ils sont toujours spirituels là, ils ne veulent pas lever la main. Ça sert à rien, on est tous spirituels ici. Lève la main, tu veux te marier. Hein? Mais pour se marier, il y a un process à suivre. Le monde a sa culture et sa façon de fonctionner. Le royaume de Dieu a sa culture et sa manière de fonctionner. Si tu t'amuses à rentrer dans le mariage sans avoir compris exactement de quoi il s'agit, tu risques de faire des erreurs de parcours qui risquent de coûter cher. Le mariage est un sujet qui est très important pour Dieu. Et c'est pour cela que depuis maintenant 5 semaines, on est sur ce sujet pour la simple et bonne raison que, 1, l'Église, il y a beaucoup de jeunes. 2, beaucoup ne sont pas mariés. 3, certains sont mariés et ont quand même besoin d'entendre la parole de Dieu concernant le mariage. Et 4, Dieu veut que tu réussisses ton mariage. Hein? Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu veut que je réussisse mon mariage? Il y tient. Depuis 3 semaines, je n'arrête pas de vous dire que la Bible commence avec l'histoire d'un mariage. Et la Bible finit avec l'histoire d'un mariage. Tu t'es jamais demandé pourquoi? Pour la simple bonne raison que Dieu est un faiseur de mariage. Dieu est un faiseur de mariage. Dieu aime les mariages. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois un couple se marier à l'hôtel, sache que Dieu est dans la salle avec un grand sourire et il est content. Donc Dieu tient au mariage et Dieu veut qu'on réussisse nos mariages. Quand on se marie, on va fonder des familles. On va donner vie à des enfants. On va les éduquer. On va donner vie à une génération. Et le mariage, Dieu y accorde beaucoup d'attention. Et parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses, de personnes, de réussite, de succès, de gloire qui vont sortir de ton mariage, Dieu y accorde beaucoup d'attention. Et Satan aussi y accorde aussi beaucoup d'attention. C'est pour cela que le jour où Dieu a marié Adam et Ève, dès qu'il a dit, monsieur et madame Adam, je vous déclare mari et femme par les pouvoirs que j'ai moi-même institués, moi-même, Dieu, à ce moment-là, je le versais juste d'après, tu vois, et le serpent vint. Oh, on ne l'a pas vu, on n'a jamais entendu parler de Satan depuis Genèse 1, mais dès que Dieu célèbre le mariage, et le serpent vint. Pour la simple bonne raison que Satan n'aime pas les mariages. Vous savez pourquoi Satan n'aime pas les mariages? Tu prends l'enseignement du séminaire de 2 jours qu'on a eu là-dessus, mais j'ai envie de te rappeler que Satan n'aime pas le mariage pour la simple bonne raison que le mariage est l'institution que Dieu a établie pour la domination de l'homme. Et lorsque 2 personnes s'accordent dans le mariage et sont un esprit, âme et corps, Satan ne peut rien faire contre eux. Ils sont très dangereux. Et c'est pour ça que Satan veut toujours détruire les mariages. La famille, c'est le socle de la société. Et aujourd'hui, la société aujourd'hui est en déclin parce que, tout simplement, les mariages et les foyers sont en déclin. C'est le désordre. Amen. Et depuis plusieurs semaines, on est en train de rentrer en profondeur sur comment se préparer au mariage en tant que personne seule, célibataire. Et petit à petit, on arrive au mariage. Mais bon, on touche à beaucoup de choses en même temps. Mais qui est béni par tout ce qu'on dit depuis 3 semaines là sur... Hein? Ça fait du bien, hein? Il faut réécouter quand même. Hein? Il faut réécouter quand même. C'est très important. D'ailleurs, ça c'est disponible aussi. Pour ceux qui ne se sont pas encore procuré ça, c'est disponible. Il faut le prendre. Il faut le prendre, il faut réécouter. Ça vous fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, la semaine dernière, on s'est focalisé sur... les principes bibliques pour se préparer au mariage. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur comprendre le principe du seul à seul avec Dieu avant d'entamer une relation amoureuse. Est-ce qu'on peut dire avec moi seul à seul? Oui, seul à seul. Notre verset de base, c'est toujours Genèse 2, du verset 15 au verset 25. Je vais le relire parce que c'est de là que tout part. Genèse 2, au verset 15 à 25. Est-ce que tu peux dire avec moi, on y va? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. La semaine dernière, on a dit que, on a beaucoup parlé des fréquentations. Et on a dit que dans le royaume de Dieu, la phase des fréquentations n'est pas une phase d'engagement. La phase des fréquentations est une phase où on apprend à se connaître. C'est une phase où on commence à poser les fondements. C'est une phase où on commence à construire une relation. Ce n'est pas une phase d'engagement. C'est une phase qui est très importante parce que dans cette phase-là, il y a des étapes qu'il ne faut surtout pas brûler. Cette phase-là, on a également dit que ce n'est pas la phase des fiançailles. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, à fréquenter quelqu'un, tu n'es pas fiancé à cette personne. Tu n'es pas engagé vis-à-vis de cette personne. On a insisté dessus parce qu'il y a des gens qui se comportent dans la phase des fréquentations comme si on dirait qu'ils étaient déjà fiancés. D'ailleurs, il y en a même qui vont jusqu'à présenter la personne en disant « Oui, je te présente ma fiancée. Tu es allé voir ses parents, tu dis c'est ma fiancée. » Juste parce que vous êtes ensemble, tu commences à l'appeler ta fiancée et elle ton fiancé. Non. Il y a beaucoup d'étapes qu'il ne faut pas brûler. La phase des fréquentations, on a également dit que c'est une phase de concertation spirituelle. C'est-à-dire, on apprend à connaître l'autre d'abord spirituellement. Je vous ai montré un petit schéma où il y avait trois phases importantes. La première phase, c'était la phase des fréquentations. La deuxième phase, c'était la phase émotionnelle. La phase de l'âme. Quand on passe des fréquentations à la phase émotionnelle, on ouvre son cœur à l'autre. D'accord ? On ouvre son cœur à l'autre, on déclare ses sentiments à l'autre. Quelque chose qu'on ne fait surtout pas dans la phase des fréquentations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rapidement s'attachent à quelqu'un alors qu'ils ne font que se fréquenter. Et quand l'autre décide de casser, ça fait mal. Alors que toi, tu avais commencé déjà à faire des projets dans ta tête. La troisième phase, c'est la phase sexuelle que l'on ne vit que dans le mariage. Et le sexe a aussi une signification très importante dans la Bible. D'ici quelques semaines, on en parlera. Ça va être chaud. Une heure et demie, on va parler que de sexe. On va dire, ah, c'est quelle église? Mais tu vas comprendre exactement de quoi il s'agit quand la Bible te parle de sexe. Quand la Bible dit « Adam connut Ève ». Le mot connu ici, connaître, c'est un mot hébreu que l'on prononce yada, Y-A-D-A, qui veut dire connaître intimement. Intimement. Quand Jésus-Christ dit, quand tu ouvres ta Bible, c'est très important d'étudier la parole de Dieu. Quand tu ouvres ta Bible et que tu vois à plusieurs endroits le mot connaître, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quoi d'autre encore? Vous connaîtrez, connaître. Ce n'est jamais le même mot qui est derrière. En français, c'est toujours traduit par connaître. Et toi, tu risques de faire, faire beaucoup d'amalgame. Quand Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, derrière, c'est le mot logos. Hein? Ce n'est pas le même mot. Mais quand il dit, Adam connut Ève, c'est le mot yada. Pourtant, en français, on te traduit par connaître. Le mot yada parle d'une connaissance intime sexuelle. Quand il dit Adam connut Ève, il connut sa femme, ça veut dire qu'il a eu une relation sexuelle avec elle. Mais quand Jésus-Christ dit vous connaîtrez la vérité, il parle simplement d'un premier niveau de connaissance. Un premier niveau de connaissance qui t'ouvre les yeux. Il y a différents niveaux de connaissance dans la Bible. Ça aussi, c'est tout un enseignement. Le premier, c'est le logos. Tu entends l'évangile, tu entends la parole, tu es touché et tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Amen. Ensuite, le deuxième niveau, c'est un mot grec que l'on prononce oïda, qui parle aussi de connaissance, mais c'est une connaissance qui est supérieure. Quand Paul dit dans le livre d'Éphésiens, je prie que vous parveniez à la connaissance de Christ, non, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous parveniez à la connaissance et que vous connaissiez l'espérance qui est attachée à votre appel. Là, c'est oïda. Ce n'est pas logos. C'est-à-dire, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, c'est-à-dire que vos yeux s'ouvrent sur la réalité de Dieu. Et très souvent, beaucoup d'enfants de Dieu dans l'Église, on est toujours au logos. On est toujours au premier niveau. On ne connaît pas Dieu comme on doit le connaître. On n'est pas encore rentré dans la révélation, ce qu'on appelle la révélation, le réma. Amen. Et ensuite, il y a un autre niveau au-dessus de oïda que l'on appelle sunesis, qui est la connaissance parfaite. C'est comme ça que vous avez dans l'évangile dans l'épître de Pierre, où Pierre, je ne me rappelle plus du verset, se met à parler de Paul et dit, notre frère Paul qui a des paroles qui souvent ne sont pas faciles à comprendre, sont difficiles à comprendre, à saisir. C'est écrit dans le livre de Pierre. Pierre écrit cette parole pour la simple bonne raison que quand Paul est arrivé à Jérusalem, la première fois, c'est Pierre qui l'a hébergé. Et Paul avait passé du temps avec Pierre seul. Et c'est là que Paul lui révèle un certain nombre de choses. Et lui, il avait du mal à saisir. Et c'est comme ça qu'il écrit cette parole-là. Que ce gars-là, Paul-là, il a des révélations que nous, on n'a pas, alors que nous, on est resté plus de 3 ans avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, tant que tu n'es pas parvenu à une certaine connaissance, de ce qu'est le mariage, il ne faut surtout pas t'hasarder à rentrer là-dedans. Il ne faut jamais te baser sur les sentiments pour dire « je vais rentrer dans le mariage ». Un païen le fait, mais toi, en tant que chrétien, tu dois toujours chercher à comprendre ce que tu es en train de faire. La semaine dernière, on a un peu rigolé lorsque j'ai dit que si tu fais le mauvais choix, tu risques de te réveiller auprès de quelqu'un tous les matins jusqu'à la fin de ta vie auprès de quelqu'un qui n'est pas fait la personne de ta destinée. Et ça, c'est très, très difficile à vivre. De te lever tous les matins avec quelqu'un et tu regrettes d'avoir épousé cette personne. Tu regrettes. Mais Dieu, qui est puissant, peut changer toute chose. Parce que Dieu tient compte de nos erreurs pour accomplir ses desseins dans nos vies. Amen. Même lorsque nous faisons des choses qui n'étaient pas prévues dans le plan de Dieu, Dieu a la possibilité de changer la chose. Oui, ne me demande pas comment, mais il le fait. Tu vas dire, oui, mais cette personne-là, ce n'est pas la personne de ma destinée, je me suis trompé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois divorcer. Non, ne divorce pas, parce que ça encore, ça déplaît encore plus à Dieu. Tu vas dans la présence de Dieu, vous allez dans la présence de Dieu et vous demandez à Dieu de vous aider et de vous restaurer, de vous guérir, de vous relever et de se glorifier dans votre mariage. Amen. Donc, on a insisté sur pas mal de choses et on a terminé par 4 principes à connaître avant d'entamer une relation amoureuse. Le premier, c'était ne t'engage pas avec quelqu'un tant que tu n'as pas mesuré les bénéfices et les dangers d'une relation amoureuse. Le deuxième, c'était toute relation doit être bâtie sur les fondements de la parole de Dieu et pas autre chose. La parole de Dieu doit être au centre de votre relation. Si Dieu n'est pas au centre de la relation, si Dieu n'est pas le troisième fil de la corde, tôt ou tard, la corde va céder. Amen. Il ne faut jamais se baser sur les « je t'aime », les émotions, « il est beau, elle est belle, il est gentil » pour dire « oui, notre mariage va tenir jusqu'à la fin ». Non. Parce qu'il y aura des tensions dans le mariage. À la mairie, la robe est blanche, le costume est gris, tout le monde est content, mais quand vous rentrez à la maison, vous commencez à bâtir un foyer. Quand vous commencez à bâtir un foyer, parfois, ça, il y a des frictions. Parfois, elle me fatigue. Oh, tu sors le matin et tu as dit un truc et tu vas au boulot et tu es énervé. C'est pas possible, celle-là. Oh, tu es énervé. Mais si tu ne comprends, si tu n'as pas compris le verset qui dit Marie, aimez vos femmes. Hein? Considérez-la avec beaucoup d'honneur. car c'est un sexe plus faible que vous. Aimez vos femmes. Marie, que la colère ne se couche pas sur vous lorsque vous allez vous coucher le soir. Et retourne vers ta femme. Les hommes, vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes mariés, pour ceux qui sont mariés, vous n'avez pas remarqué que quand madame, il y a eu un coup de colère dans la maison, tu n'arrives plus à réfléchir normalement. Tu n'arrives plus à réfléchir normalement. Elle te regarde, elle dit, tu vas revenir. Laisse-le, il va aller tourner, il sort, il claque la porte, il va faire un tour, il prend la voiture, il sort toute la journée. Quand elle appelle, il ne décroche pas, il éteint son téléphone. Elle dit, c'est pas grave, il va revenir. Parce qu'il ne peut plus être productif tant qu'avec madame, ce n'est pas résolu. Amen. Troisième principe, on a dit que vous devez vous engager mutuellement à ne pas violer les standards divins dans le processus de préparation et ceci sous aucun prétexte. Dans le royaume de Dieu, il y a des standards, il y a des valeurs, il y a des principes. Et quand on construit une relation amoureuse avec quelqu'un, on doit s'engager mutuellement tous les deux à ne pas violer ces standards-là. Il y a des situations qui se présenteront où vous allez être tenté, mais il faut que vous ayez pris un engagement moral et ferme en disant, on ne viole pas notre engagement, on se préserve jusqu'au mariage. Amen. C'est très important. Et enfin, le quatrième principe, on a dit que quand vous exprimez ou ressentez le besoin de rencontrer absolument quelqu'un, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt pour une relation amoureuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque tu es toujours en train de chercher à te mettre avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Tu n'es pas tranquille lorsque tu es seul. Alors que la solitude est une maladie, mais le fait d'être seul n'est pas une maladie. C'est deux choses totalement différentes. Être seul, c'est juste un état. Mais ça ne veut pas dire que tu es malade, ou bien tu es blessé, ou bien tu as un manque quelque part. La solitude, elle, c'est un problème. Mais lorsque tu ressens toujours le besoin d'être avec quelqu'un, cela veut dire qu'il y a un vide qui n'est pas comblé et que seul Dieu peut combler et non pas une relation amoureuse. Amen. C'est très important. Donc, avant d'entamer une relation amoureuse, tu dois déjà avoir une relation intime, seul à seul avec Dieu. Et c'est ce sur quoi on se focalise aujourd'hui. Avant que Adam ne rencontre Ève, il était très bien seul. Adam était très bien sans Ève. C'est le principe du seul à seul avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi seul à seul? Le fait d'être seul n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas du tout un problème pour Dieu. Je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Dieu veut que tu sois d'abord seul. Dieu veut que tu sois seul parce qu'il y a des choses que Dieu va te donner durant la période où tu es seul qu'il ne pourra pas plus te donner dans le mariage. Il y a des révélations sur ta vie, sur ton identité que Dieu veut te donner avant le mariage. Et si tu t'amuses à brûler des étapes durant cette période-là, tu risques d'aller te mettre avec quelqu'un et te retrouver avec des manquements, avec des briques qui n'ont pas été posées correctement dans l'édifice, et la maison sera bancale. Et quand la tempête soufflera, elle tombera. Donc ne te précipite jamais à te mettre avec quelqu'un quand tu sais que tu n'es pas prêt à entretenir une relation durable, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées dans ta vie. Est-ce qu'on me suit? Dieu n'a aucun problème avec le fait qu'on soit seul. Il n'a aucun problème. Mais Dieu a un problème. Quand on se sent seul, je me sens seul, je veux absolument être avec quelqu'un. Une fois, j'étais avec une jeune femme, elle me raccompagnait à la maison, et puis je lui ai dit, comment ça va? Ah tiens, comment ça va avec ton ami là, avec qui je t'avais laissé la dernière fois qu'on s'était vu? Oh, on est toujours là, beaucoup de problèmes, tout ça, et ça ne va vraiment pas entre nous. On se sépare tout le temps, on revient, on se sépare tout le temps, on revient. J'ai dit, il faudrait vous décider au bout du compte. Hein. Mais je pense que, pendant un moment, je pense que tu devrais rester seul. D'accord? Et plus, déjà donner ta vie sérieusement à Jésus. Et puis, rester seul pendant un moment. Elle me répond, non. Moi, la fille de rester seul, jamais. Je ne peux pas rester seul. Je l'ai regardée et j'ai dit, elle a un gros problème. Si elle dit qu'elle ne peut pas rester seule, elle a un gros souci. Ça, c'est ce qu'on appelle, elle est malade de la solitude. Et elle veut se soigner de sa solitude avec une relation amoureuse. Et c'est pour cela qu'elle a beaucoup de problèmes. Dieu n'a aucun problème avec le fait qu'on soit seul, mais avec notre solitude, avec la solitude, si. Être seul est juste un état à un instant T de sa vie. C'est ce qu'on appelle le célibat, être célibataire. Aujourd'hui, le monde a mis un accent péjoratif sur le mot célibat, célibataire. Être célibataire, ça n'a rien de péjoratif. Être célibataire, tu peux très bien être célibataire et être épanoui et être très heureux. Tu n'as pas besoin de te mettre avec quelqu'un pour être épanoui. Adam était célibataire, Adam était seul. Et je vous ai dit que quand Dieu envoie les animaux vers Adam et qu'Adam est en train de chercher une aide pour l'aider dans sa tâche, Adam ne cherchait pas une femme, il cherchait de l'aide. Mais lorsqu'il voit la femme pour la première fois, il dit « Ah, voici celle qui est semblable à moi, os de mes os et chair de ma chair. » Mais lui, il ne cherchait pas quelqu'un absolument comme ça. Il cherchait juste une aide. Mais il dit « Cette fois, elle est os de mes os et chair de ma chair. » Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a vu les animaux, il voyait des animaux qui pouvaient être des aides potentielles, mais qui n'étaient pas chair de sa chair et os de ses os. Donc c'était comme quelque chose de... Ça ne le satisfaisait pas totalement. Il pouvait se servir de l'aide des animaux, mais ça ne le satisfaisait pas. Mais quand il voit la femme, il dit « Oui, là c'est parfait. Là c'est vraiment ce qu'il me faut. » Gloire à Dieu. Donc le célibat n'est pas un problème pour Dieu. Et durant la période du célibat, il y a un principe très très important que l'on doit saisir, que le principe du seul à seul. Est-ce que tu peux dire avec moi « seul à seul » ? Durant la période du seul à seul, il y a quelque chose qui doit se passer. 1 Corinthiens 6 au verset 17 nous dit ceci. « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Durant la période du seul à seul, tu dois t'attacher à Christ. Si tu rentres dans le mariage, si tu rentres dans une relation amoureuse d'abord, si tu rentres dans une relation amoureuse sérieuse avec quelqu'un, mais que tu n'es pas attaché à Christ, je t'assure, cette relation ira de pire en pire. Parce que pour pouvoir bâtir une relation sérieuse avec quelqu'un, il faut d'abord que, individuellement parlant, vous soyez déjà connectés à Dieu tous les deux. Et ce sera beaucoup plus simple ensuite de pouvoir développer une communion avec le Saint-Esprit en tant que couple. Mais pour pouvoir y arriver en tant que couple, il faut déjà qu'à titre individuel, on soit connecté à Dieu. Et très souvent, on rencontre des couples où l'un est connecté à Dieu, a appris à développer une communion avec le Saint-Esprit, et l'autre pas. Et spirituellement parlant, très souvent, ça pose des problèmes, ça pose des soucis. C'est comme ça que tu retrouves des couples qui se fréquentent, qui sont ensemble, et puis l'un va à l'église, l'autre ne va pas à l'église. L'un lit la Bible, l'autre ne lit pas la Bible. L'un prie, l'autre ne prie pas. Au bout d'un moment, ça capote. Au bout d'un moment, ça ne peut pas suivre. Et quand tu as une relation sérieuse avec Dieu, tu as appris à développer une communion avec le Saint-Esprit, et tu commences à fréquenter quelqu'un qui n'a pas développé une communion avec le Saint-Esprit, fais très attention. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Elle est chrétienne, il est chrétien. Mais tu dois faire très attention en ce qui concerne le spirituel. Parce que si toi, tu vas trop vite, et on va en parler tout à l'heure, et cette personne ne va pas assez vite pour toi, alors vous devez vous arrêter et réfléchir comment vous allez avancer ensemble. Surtout l'homme. Parce que l'homme, tu es appelé demain, si vous vous mariez, à être le chef de la famille. Si tu t'amuses à épouser quelqu'un qui spirituellement est là, et toi tu es là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc tu dois mesurer et t'assurer que spirituellement parlant, la personne avec qui tu te mets spirituellement parlant doit te suivre. Après, tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde n'est pas parfait. Et quand la personne avec qui tu es, spirituellement parlant, c'est pas ça du tout, alors il te reste que la prière. Il faut remettre ça sérieusement entre les mains de Dieu. Parce que je ne dis pas qu'il faut se séparer absolument. Je ne dis pas qu'il faut se séparer absolument. Mais si tu es avec quelqu'un qui spirituellement est moins mature que toi, alors il faut que tu pries pour cette personne sérieusement. Et il ne faut pas hésiter à parler de Jésus avec cette personne, de développer des conversations avec cette personne au niveau spirituel, jusqu'à ce que cette personne, son cœur s'ouvre à Dieu. Est-ce qu'on me suit? La solitude est une maladie. Le fait d'être seul devient une maladie. Le fait d'être seul devient une maladie quand ça se transforme en solitude. Le fait d'être seul n'est pas une maladie, mais la solitude, si. Une personne qui souffre de solitude, non seulement elle n'est pas prête pour le mariage, mais elle n'est pas prête aussi pour une relation amoureuse. C'est très, très, très dangereux d'essayer de construire une relation amoureuse avec quelqu'un alors qu'il y a l'un des partenaires qui souffre de solitude. Vous ne savez pas qu'on peut être avec quelqu'un, vous avez bâti un couple, mais la personne se comporte toujours comme si elle était seule. Vous ne savez pas ça? Ah oui, il y a des gens, ils sont en couple, ils sont mariés, mais ils sont toujours seuls. Ils se sentent seuls. Vous êtes ensemble dans la maison, il y a les enfants, mais ils se sentent seuls. Il y a des couples qui sont au bord de la séparation. Quand vous les recevez, ils vous disent, il y a l'un qui te dit, je sais pas, je me sens seul, je ne me retrouve plus en elle, je ne me retrouve plus dans ce couple, je ne me retrouve plus dans ce mariage, je ne m'épanouis plus dans cette maison, je me sens seul. C'est comme ça que vous avez des hommes dans la maison, il est avec madame, mais dans la maison, personne ne se parle. Ils peuvent rester des heures et des heures dans la maison ensemble, personne ne se parle. Quand ils se croisent dans le couloir, on se croise, on passe, comme si on ne se connaît pas. Oh. Comment tu peux croiser ta femme dans le couloir en sortant de la chambre et puis vous ne... C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Tu te lèves le matin et puis même pas bonjour. C'est pas... Vous êtes seul, chacun de son côté. Monsieur, à la maison, dès qu'il rentre, on met la table pour manger. Il est là, les enfants sont là, madame est là, mais il est là, il mange, il ne parle pas. Il ne parle pas. Même pas demander comment a été la journée, les enfants, comment ça va, chérie, ça va, etc. Même pas. Par contre, elle doit lui faire à manger, s'il te plaît. Si elle ose ne pas lui faire à manger, là, il va parler. Hein? Quelqu'un qui n'a pas appris à être seul et à s'épanouir en étant seul se retrouvera en couple demain à toujours chercher à combler ce vide avec son conjoint. Quelqu'un qui n'a pas appris à être seul avec Dieu. Il rentrera dans une relation avec un vide et il fera toujours tout pour que ce vide soit comblé au travers de la relation qu'il a avec la personne. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'au bout d'un moment, l'autre, il va craquer et il lâchera. Parce que l'autre, au bout d'un moment, dira, je ne me suis pas mis avec toi pour combler des vides. Je me suis mis avec toi pour qu'on avance, pas pour qu'on recule. Est-ce qu'on me suit? Je ne sais pas, mais c'est vous êtes calme. Hein? Vous êtes calme. C'est sérieux ce que je dis. Hein? C'est très sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Beaucoup de gens qui vivent ça. Adam ne cherchait pas quelqu'un pour lui tenir compagnie ou pour combler une maladie, guérir d'une maladie. Non, Adam cherchait une aide. Adam ne cherchait pas un remède à une solitude. Adam cherchait un partenaire pour le travail. Une aide qui serait comme lui, semblable à lui et qui serait capable de faire la même chose que lui pour l'aider à atteindre sa destinée. Adam cherchait un partenaire. Quand Dieu amène sur le chemin de ta vie quelqu'un, un homme ou une femme, c'est un partenaire que Dieu te donne pour atteindre ta destinée. Dieu sait que tout seul, tu peux atteindre ta destinée. Mais si Dieu met quelqu'un sur ton chemin, c'est tout simplement pour décupler tes efforts et pour pouvoir aller plus vite vers ta destinée. Est-ce qu'on me suit? C'est très important. La personne que Dieu met à côté de toi ne vient pas pour te compléter. La semaine dernière, on a beaucoup insisté sur ça. Quand tu entres dans une relation amoureuse, tu ne rentres pas incomplet. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, elle me complète. Non, elle ne te complète pas. Elle te complémente à la rigueur. Elle vient pour t'aider. Mais elle ne vient pas te compléter. Si tu es incomplet, il y a un problème. Parce que tôt ou tard, ce vide-là, ces blessures, cette solitude ou autre, finira par se manifester et à vous poser des problèmes. Amen. Donc chacun doit développer une relation avec Dieu, c'est très important. Il y a un schéma que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Chacun doit développer une relation avec Dieu. On a monsieur, on a madame et on a Dieu. Les deux développent une relation mutuelle, parallèle. Mais chacun de son côté a aussi une relation avec Dieu, personnelle. Si l'un des deux flanche dans sa relation avec Dieu, ça finit par flancher en bas, à la base, tôt ou tard. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi j'ai mis ce verset? Pour la simple bonne raison que même si ta relation avec monsieur s'arrête, ta relation avec Dieu continue toujours. Parce qu'il y a des gens qui, lorsque la relation avec l'autre s'arrête, c'est comme si on dirait avec Dieu aussi ça doit s'arrêter. Mais pourquoi tu ne viens plus à l'église aujourd'hui, mon frère? Mais en ce moment, je traverse vraiment des moments difficiles avec elle. Oh, c'est à cause de ça que tu ne viens plus à l'église. Tu sais, c'est compliqué en ce moment. Elle m'a quitté. Donc, en ce moment, je n'ai pas trop la tête à venir à l'église. J'ai envie de voir personne. Mais tu n'as pas envie de nous voir, nous, les frères en Christ? Non, même vous, je n'ai pas envie de vous voir. Hein? Une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, quatre mois. Mais frère, tu ne viens pas à l'église? Non, elle m'a quitté. Là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ça veut dire que ta foi reposait sur la relation que tu avais avec cette personne. C'est grave. C'est très grave. À croire même si tu es, à se demander si tu es sauvé finalement. Si tu es né de nouveau, verrez vraiment. Est-ce qu'on me suit? C'est très important. Et il y a le contraire aussi. Hein? Il y en a qui, ils ont une relation avec Dieu, seul à seul. Et dès que quelqu'un entre dans leur vie, la relation avec Dieu s'arrête. La personne qui est rentrée dans la vie, le gars qui est rentré dans ta vie, il remplace Dieu maintenant. C'est-à-dire le matin, avant, quand tu te levais, oh la fille, super spirituelle, elle se levait toujours à 4h, 5h, elle sait qu'elle doit être au boulot à 7h30, mais elle se levait toujours à 5h pour prier, 6h30 elle est partie. Mais depuis qu'elle a rencontré ce monsieur, elle est heureuse, hein? Elle est aux anges, elle plane. Mais le matin, quand elle se lève, Dieu, il ose oublier. Dès qu'elle se lève, elle prend le téléphone. Tu vas bien? On parle. Mais Dieu, il est regardé. Mais les temps de prière qu'on passait ensemble, toi et moi, c'est passé où? Hein? C'est passé où? Ou bien, elle arrivait toujours à l'heure à l'église. Toujours disciplinée, toujours correcte. Et maintenant, tu ne sais pas pourquoi, depuis qu'elle a rencontré quelqu'un, elle est toujours en retard. Pourquoi? Mais parce que je l'attendais, ou bien parce qu'on devait d'abord se voir, lui et moi. Mais tout le temps, tu venais aux réunions de prière. Mais non, maintenant, je suis maintenant tout le temps avec lui au restaurant le soir, etc. Dieu a été mis en second rang. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Amen. 1 Corinthiens 7, au verset 2, nous dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Colossiens 3, 17 dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça pour la simple bonne raison que ça, c'est pris dans le contexte du mariage. Mais ce sont des principes qui sont valables également dans le cadre d'une relation amoureuse. Dans le cas d'une relation amoureuse. Si Dieu n'a pas sa place dans votre couple, la relation que vous allez bâtir en tant qu'homme et femme, elle sera bancale. Et elle finira par flancher tôt ou tard. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? Dis avec moi seul à seul. Et dans le mariage, au moment où tu rentres dans le mariage, ta relation avec Dieu aussi ne doit pas déterminer ta relation avec ton conjoint. Mais ta relation avec ton conjoint ne doit pas aussi déterminer ta relation avec Dieu. Et c'est pour cela que dans l'étape du seul à seul, tu dois construire une relation solide avec le Saint-Esprit. C'est très important. Tout le monde veut se marier. La plupart des gens veulent se marier. C'est rare de voir des gens qui ont dit, moi j'ai fait le vœu de... C'est le vœu de quoi encore? Je ne sais même plus. De chasteté, c'est ça? Vœu de chasteté. 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 On a chassé. Hein? C'est rare. Tout le monde veut se marier. Mais pourquoi il y a autant de... Attends. Les païens sont dehors, à l'extérieur. Ils se marient aussi. Et ils ont plein de problèmes. Et quand on leur dit, celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et la notice, c'est la Bible. Mais on veut régler nos problèmes de mariage. On va voir qui? On va voir l'Église. Quand on va voir l'église qui connaît la Bible par cœur. On arrive dans l'église et puis on fait « Wow, c'est pire qu'à l'extérieur, les problèmes de mariage dans l'église. » Il y a un souci quelque part. Il y a un souci quelque part. Pour la simple bonne raison que les principes concernant le mariage, le plus souvent, ne sont pas respectés. Il y a des gens qui entrent dans le mariage, oui, sans avoir pris le temps de cultiver une relation d'intimité avec Dieu. Et, comment dire ça? Quand on est dans le mariage, on peut se demander, mais ok, je n'ai pas appris à développer une relation d'intimité avec Dieu lorsque j'étais seul. Mais est-ce que cela veut dire que lorsque je vais me marier demain, est-ce que ça veut dire que je ne pourrai plus avoir de relation intime avec Dieu? Bien sûr que si. Bien sûr que tu peux recommencer à bâtir une relation d'intimité avec Dieu. Mais la différence, c'est que là maintenant, tu as quelqu'un à côté de toi que tu dois prendre en considération. La difficulté que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 32 qu'on va lire tout de suite, c'est que Paul nous dit, je veux que vous soyez seuls. C'est ma prière. Maintenant, celui qui veut se marier, il peut se marier. Mais qu'il sache que dans le mariage, il va vivre des tribulations. Il va connaître des problèmes. Le mariage, on sera heureux. Le mariage a été créé pour qu'on soit plus heureux, oui. Mais pour construire ce bonheur-là, cet épanouissement-là dans le couple, il va falloir faire des sacrifices. Ça va faire mal quelque part, ça c'est sûr. Mais ma prière, c'est que vous soyez seul. Parce que quand on est seul, on peut facilement se concentrer sur ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on me suit? C'est plus simple de se concentrer sur Dieu quand on est seul. Mais lorsqu'on est avec quelqu'un, on doit toujours se concentrer sur Dieu, mais on doit aussi prendre en considération celui qui est à côté. Amen. Donc ce n'est pas évident, quand on n'a pas appris à développer une relation d'intimité, quand on était seul, d'en construire une nouvelle avec Dieu quand on est dans le mariage. Parce que quand on est dans le mariage, la relation d'intimité qu'on construit avec Dieu, bien sûr on est toujours seul avec Dieu d'une certaine manière, mais on doit maintenant prendre en considération l'autre qui est à côté de nous. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7 au verset 32, un passage très important. Version parole vivante, il dit, c'est pourquoi je voudrais vous savoir exempt de tout souci et libre de préoccupations et d'inquiétudes. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire et de lui donner entière satisfaction. Celui qui est marié doit s'occuper des questions matérielles, des affaires de ce monde. Il cherche à plaire à sa femme et le voilà partagé, tiraillé entre des intérêts opposés. Amen. C'est clair ou pas? Et il dit encore, il en est de même de la femme non mariée ou de la jeune fille. Elles n'ont d'autre souci que de prendre à cœur les intérêts du Seigneur, visant à se consacrer à lui corps et esprit, tandis que la femme mariée doit se consacrer aux affaires de ce monde, car elle veut plaire à son mari. Gloire à Dieu. N'attends pas d'être marié pour développer une relation d'intimité avec Dieu. Développe-la aujourd'hui. Amen. N'entre pas dans le mariage, n'entre pas dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui t'amènera au mariage sans d'abord avoir construit une relation d'intimité avec Dieu. C'est très important. Car quand tu entreras dans le mariage, tu auras des frictions, tu auras des désaccords, tu auras des blessures qui pourront être créées par des maladresses, etc. Involontaires ou volontaires. Mais si ta relation avec Dieu est solide, alors tu tiendras. Tu tiendras. Amen. C'est très important. Et Paul, il insiste là-dessus pour la simple et bonne raison que son objectif à lui, c'était qu'on puisse grandir dans notre communion avec Dieu. C'est l'objectif. Moi, mon objectif aujourd'hui en tant que pasteur, c'est que tout le monde ici puisse, je puisse voir tout le monde grandir dans sa communion avec Dieu. Je puisse voir des effusions de mariage dans l'église. Mais je veux m'assurer que lorsque je te verrai te marier avec l'autre, lorsque je vous verrai vous marier, je veux être sûr que chacun a une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est sûr. Et je sais que demain, en cas de problème, ils tiendront. Amen. Ils tiendront. C'est très important. Et Paul, quand il dit une parole comme celle-là, il dit, mais les gens lui posent la question, mais oh, donc tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on soit seul. Il faut qu'on reste seul. Parce qu'on veut se marier, mais à t'écouter là, C'est comme si on dirait, si on se marie, ça peut nous poser, ça va être difficile. Et Paul, sachant que les gens allaient lui poser cette question, il rajoute ceci. Au verset 35, il dit, 1 Corinthiens 7, au verset 35, et non 1, 7. Je dis cela dans vos propres intérêts et non pour vous tendre un piège, mes enfants, pour vous imposer un joug supplémentaire. Je ne veux pas restreindre votre liberté, mais seulement promouvoir parmi vous une vie digne et bien ordonnée. J'aimerais vous encourager à vous consacrer au Seigneur sans réserve, à vous attacher à lui sans partage et à le servir sans que rien ne vienne vous en détourner. Mais, est-ce qu'on peut dire avec moi « mais » ? Mais si quelqu'un pense qu'il a trop d'inconvénients à rester célibataire, là il parle de toi. Il y a trop d'inconvénients. Oh non, pasteur, non, rester célibataire toute la vie. Hey! Ne pas se marier. Toute la vie, rester seul. Si quelqu'un pense qu'il y a trop d'inconvénients à être seul, si ses désirs le subjuguent, tu sais c'est quoi quand les désirs te subjuguent? Ouh, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Ça, c'est subjugué, ça. Si ses désirs le subjuguent et qu'il s'estime déshonoré en dépassant seul la fleur de l'âge. Oh, pasteur, moi j'ai déjà 25 ans, j'ai déjà atteint 30 ans, je ne suis toujours pas marié. Et puis tu sais qu'après 30 ans, c'est difficile d'avoir des enfants, il faut que je me marie. Oh, qui t'a dit ça? Sarah a eu et Abraham a eu un enfant à 99 ans. Dieu peut faire toutes choses de manière extraordinaire, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Tu peux avoir 50 ans, la ménopause est passée, boum, tu deviens enceinte. Tu dis, comment elle a fait, Dieu? Rien n'est impossible à Dieu, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Rien. Tu peux avoir même 35 ans, 40 ans, 45 ans et trouver la personne de ta vie. Oui, on a vu des gens se marier à 45, 50 ans. Moi, j'ai assisté à un mariage de deux personnes qui avaient plus de 50 ans, près de 50 ans. C'était magnifique. C'était magnifique. C'était des gens qui ne pensaient jamais qu'ils allaient se marier. Mais ils se sont rencontrés à l'église, s'il vous plaît. Ils se sont aimés et aujourd'hui, ils sont mariés et ils sont heureux. Amen. Et qu'ils s'estiment déshonorés en dépassant seuls la fleur de l'âge. Paul dit quoi? Eh bien, qu'ils suivent l'inclination de son cœur et fassent ce qui lui semble bon. Ils ne pêchent pas. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne pêche pas? Que ces gens-là se marient donc. Vous savez pourquoi ils mettent donc à la fin? Parce qu'on l'a fatigué avec le mariage. On l'a fatigué. Parce que là, il répondait à des lettres. Les églises lui envoyaient les lettres. Parce que depuis que Jésus-Christ est ressuscité et que l'église primitive venait d'être créée, donc les esclaves maintenant pouvaient parler dans l'église. Tout le monde pouvait parler. Donc maintenant, même tout le monde maintenant pouvait venir devant le pasteur, Timothée, Luc, tout ce monde-là, et puis exhiber leurs problèmes. Mais Paul recevait les lettres de Macédoine, de Corinthe, de Éphèse. Et puis quand il regardait les lettres, tout le temps le sujet du mariage arrive. Il dit, mais c'est quoi? Les gens, ils vont pas avec le mariage, quoi. Pourtant, on est bien seul. Mais il voit que les gens disent, non, pasteur, ici c'est chaud. Les gens veulent se marier. Comment on fait? Eh bien, qu'ils se marient donc, ils ne pêchent pas. Si tu trouves trop d'inconvénients, pasteur, moi ton histoire de faut d'abord rester seul à seul pendant des années tant que mon cœur n'est pas d'abord restauré, tout ça, pasteur, moi je me marie, laisse-moi tranquille. Marie-toi! Au lieu de brûler, il dit ça plus loin, non? Marie-toi! Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut dire avec moi gloire à Dieu? Ouais, c'est très important. Donc une personne qui a appris à être heureuse avec Dieu tout en étant seule, elle est complète physiquement, émotionnellement et spirituellement et intellectuellement, cette personne peut très bien s'épanouir dans la vie. Les célibataires épanouis trouvent leur identité dans le fait d'être entiers dans leur relation avec Dieu. Quelqu'un qui est seul et qui est épanoui dans sa relation avec Dieu est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à être seul. Amen. Un célibataire qui a une intimité avec Dieu peut s'épanouir pleinement et connaître le bonheur. Quand il décide de se marier, le mariage ne vient que renforcer encore plus le bonheur qu'il vit déjà dans sa relation avec le Saint-Esprit. Le mariage ne vient que pour renforcer cette intimité-là. Le mariage ne vient pas détruire cette intimité-là. Amen. Si le fait d'avoir rencontré quelqu'un a affecté ta relation avec Dieu, alors ça veut dire que ton intimité avec le Saint-Esprit n'était pas bonne. elle n'était pas bonne. Seuls les gens qui sont entiers individuellement peuvent être épanouis en étant seuls. Quand je dis entier, je dis quelqu'un qui n'a pas de blessure, quelqu'un qui est, ça va, il n'a pas de problème personnellement en étant seul. Quand on l'invite à un mariage et il est là assis dans la salle, il commence par rêver quand il va les autres se marier. Non. Il dit, ce serait cool là, si je me marie, mais franchement, je suis très bien seul. Franchement, tu ne veux pas te marier un jour? Oh non, frère, moi je suis très bien tout seul. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à être seul. Il ne veut pas se marier. Mais il ne sait pas qu'en chemin, Dieu va lui mettre quelqu'un sur la route qui va lui tourner la tête. Mais toi, tu avais dit que tu ne voulais pas te marier. Non, non, gars, la fille là. Oh. Elle me tourne la tête. Elle me tourne la tête. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu, vous les voyez. Ils peuvent rester 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Ils n'ont pas de relation avec qui que ce soit. Ils sont tranquilles. Ils travaillent, ils créent son business. Tout va bien. Et puis un jour, sans qu'ils s'y attendent, Dieu met une femme sur sa route. Et cette femme, quand elle arrive, ça ne fait que le propulser encore plus. N'est-ce pas? C'est très important. Et non le l'amener plus bas. Un célibataire épanoui et entier individuellement a appris, en étant seul, dans sa relation avec Dieu, à s'aimer. Est-ce qu'on peut dire avec moi s'aimer? C'est la chose la plus importante que Dieu te donnera dans le seul à seul. Plus tu développes une intimité avec le Saint-Esprit, plus tu vas apprendre à t'aimer. Parce que tout simplement, tu ne peux pas entrer dans une relation avec quelqu'un et prétendre l'aimer comme il faut si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pour cela que Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Car un homme ne peut pas haïr sa propre chair. Hein? Donc, si tu veux pouvoir aimer l'autre dans une relation sérieuse, développer un amour sincère envers l'autre, tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Malheureusement, on retrouve beaucoup de gens qui commencent à construire des relations sérieuses avec, entre eux alors qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Les relations amoureuses, je vous ai dit la dernière fois que le faire aiguise le faire. Je vais te donner une image et tu vas encore mieux comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une lame, un couteau ou bien une machette bien limée? Comment est-ce qu'on fait? On la met sur un appareil qui tourne et on prend la lame qui est émoussée, hein, qui est émoussée, et puis on la met contre le fer. Quand on la met contre le fer, ça fait... Et puis tu vois les étincelles dans tous les sens là. Et puis le forgeron est là, il lime. C'est ça le fer aiguise le fer. Quand tu te mets avec quelqu'un, il va falloir que cette personne-là, au contact de cette personne-là, Dieu commence à t'aiguiser. Mais quand on prend la lame qui est émoussée et puis on la met sur le fer, quand le forgeron est en train de limer là, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais à la fin, il en ressort quoi? Une lame propre et limée, tranchante et efficace pour couper. Quand tu te mets avec quelqu'un dans une relation sérieuse et demain le mariage, Dieu va t'aiguiser. Tu étais tranquille, tu n'avais aucun problème quand tu étais seul, tu pensais que tu étais entier, mais dès que tu commences à fréquenter la personne, tu te retrouves à faire des choses ou à dire des choses, tu ne comprends pas que tu n'avais jamais vu dans ta vie, parce que Dieu est en train de te limer, de t'aiguiser. Amen. Dieu est en train de t'aiguiser pour que tu deviennes parfait au moment d'entrer dans le mariage. Et c'est pour cela que quand tu dis, oui, cette personne, avec cette personne, c'est trop douloureux, il y a trop de problèmes, etc. J'en ai marre, je ne peux pas l'épouser, c'est pas possible, elle et moi, etc. Tu n'as pas compris que Dieu est en train de t'aiguiser pour te rendre parfait. Parce que tu n'as pas discerné cela. Tu risques de te séparer de la personne qui, en fait, était la personne de ta destinée. Amen. C'est très important. Il y a des gens qui entrent dans le mariage et qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui vivent un complexe d'infériorité, qui vivent un complexe d'infériorité ou encore de mauvaise estime d'eux-mêmes, mauvaise estime de soi. Est-ce qu'on peut dire avec moi la mauvaise estime de soi? Quand l'un des partenaires a une mauvaise estime de lui-même, quand l'un des partenaires a une mauvaise estime de lui-même ou vit encore un complexe d'infériorité, la première personne qui en souffre, c'est l'autre. La première personne qui en souffre, c'est l'autre. Celui qui a une mauvaise estime de lui-même, parce que tout simplement dans sa solitude, il ne s'aime pas, il n'a pas appris à développer une intimité profonde avec Dieu, très souvent, l'autre a du mal à avancer avec cette personne-là. Très souvent. Parce que, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais... Par exemple, quand l'un des partenaires a une mauvaise estime de lui-même, complexe d'infériorité, je vais vous donner un indice d'un complexe d'infériorité. C'est quand l'un des partenaires, par exemple, est toujours en train de se comparer à l'autre. Complexe d'infériorité. Ou bien se sent tout le temps dévalorisé, alors que l'autre n'a rien fait. Tout le temps. Tu ne m'aimes pas. Si tu as dit ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Avec toi, je me sens jamais valorisé. Avec toi. Tu es... Ou bien, l'un des partenaires dit, tu es avec elle, vous allez voir ta mère, et puis tu vois ta mère, et tu fais, maman, tu es ravissante. Et puis, elle te regarde. Quoi? Elle est ravissante. Et moi? Problème. Et vous vous disputez à cause de petites choses comme ça. Tu lui as dit qu'elle était ravissante. Moi, tu me dis jamais que je suis ravissante. Mais je t'ai dit ça. Tu te dis tous les jours que tu es ravissante, Thierry. Non, tu n'avais pas à lui dire ça. Problème. Complexe d'infériorité. Ou bien, tu ne m'as pas dit que tu m'aimais aujourd'hui. Si je t'ai dit ça ce matin en partant, mais dis-moi encore que tu m'aimes. Ben, je t'aime. 5 minutes après, tu me dis, dis-moi encore que tu m'aimes. Dis-moi, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes. Je t'aime. M'arrête de me fatiguer. Tu m'aimes? Proverbe 30, verset 15 nous dit ceci. Regardez. La sanction à deux filles. Donne et donne. Donne-moi de l'amour, chérie. Donne-moi. La sanction, elle a une particularité, c'est qu'elle veut toujours, mais elle ne donne jamais en retour. Et il y a des gens comme ça. Celui qui a un complexe d'infériorité ou une mauvaise estime de lui-même cherchera toujours à prendre de l'autre. Toujours. Mais il aura du mal à donner en retour parce qu'il voudra toujours combler un vide que seul Dieu peut combler. Amen. Et tu ne peux pas aimer l'autre tant que toi-même, tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. Jésus-Christ nous dit une parole très importante, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, quand le pharisien lui demanda, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi des prophètes. Tu ne peux pas aimer ton prochain, tu ne peux pas aimer ton conjoint, ton partenaire, si toi-même tu ne t'aimes pas déjà. Hein? C'est très important. Tu ne peux pas aimer l'autre si toi-même tu ne t'aimes pas. Et celui qui ne s'aime pas doit d'abord apprendre à développer une intimité avec le Saint-Esprit dans le seul à seul. Et là, il se découvrira lui-même, il construira aussi une relation avec lui-même, il s'aimera lui-même, son estime de soi sera solide et quand il entrera dans le mariage, il n'y aura pas de souci. Amen. Gloire à Dieu. On va atterrir avec trois points, trois responsabilités que chacun doit avoir pour éviter, pour détruire le complexe d'infériorité dans le mariage. La première responsabilité de chacun pour faire attention au complexe d'infériorité, pour le détruire, pour l'éviter, c'est que chacun doit aimer Dieu de tout son cœur et de tout son être et s'aimer soi-même. Ne t'avise pas d'aller demander quoi que ce soit à l'autre si d'abord toi-même, tu n'as pas appris à te le donner à toi-même. Tu veux de l'amour, tu veux que l'autre te donne de l'amour, donne-lui de l'amour. Mais pour pouvoir donner de l'amour à l'autre, il faut que tu t'aimes suffisamment toi-même. Amen. 1 Jean 4, verset 19, nous dit ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Avant que l'autre puisse t'aimer, avant d'attendre de l'amour venant de l'autre, sache que Dieu t'aime déjà suffisamment. Amen. Vraiment, je tiens à ce que chacun soit clair avec cette vérité-là pour lui-même. Dieu t'aime suffisamment. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es encore seul ou que tu n'es pas marié que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime et t'aimera toujours. Et avant même que cet homme-là ou cette femme-là t'aimait, Dieu t'aimait déjà. Hein? Dieu t'aimait déjà. Quand Dieu se révèle à toi, tu découvres qui est Dieu. Tu découvres qui est le Créateur de toutes choses, le grand Dieu éternel qui habite en toi par le Saint-Esprit. Et parce que Dieu a investi en toi et habite en toi par le Saint-Esprit, c'est la preuve irréfutable de son amour. Et Dieu est prêt à tout pour toi. Une fois, je marchais seul dans la rue et puis le Seigneur me disait, tu sais, Luc, j'ai une alliance avec toi. Et parce que j'ai une alliance avec toi, parce que je me suis engagé à t'aimer et à te donner tout ce que je me suis engagé à donner à mes enfants dans cette alliance-là, sache que tu ne craindras rien. Tu rencontreras des difficultés, certes, peut-être, mais je serai toujours à tes côtés. Rappelle-toi, David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me protègent. Oui, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, regarde bien ce que David dit. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre vient d'où? L'ombre vient du fait qu'il y a de la lumière quelque part. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre. C'est parce qu'il y a de la lumière au-dessus que tu vois l'ombre. Vous ne me suivez pas. C'est parce que tout simplement, il y a de la lumière au-dessus de ta tête qu'il y a toujours de l'ombre dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que même quand Dieu, tu as l'impression qu'il n'est pas là, Dieu est là. Il te regarde, il est juste à côté. Et il dit, pourquoi tu paniques, je suis là. Mais Seigneur, Dieu m'a abandonné, c'est compliqué. Dieu a toujours été là. Toujours, il a toujours été là. Un jour, mon petit frère avait eu des problèmes et il s'était retrouvé en prison pendant 6 mois. Et quand il est sorti de prison, un jour il a fait une crise de chagrin et puis il se met à crier, mais où était Dieu quand je me suis retrouvé en prison? Et moi je lui ai répondu, mais tu n'as pas remarqué que pendant tout le temps où tu étais en prison, j'étais là tous les jours. J'étais là tous les jours, depuis le jour où il est rentré en prison jusqu'au jour où il est sorti, j'étais là tous les jours. Et il a pu sortir de prison comment? C'est-à-dire, le juge avait le choix entre le condamner pour une peine de 3 ans ou bien qu'il trouve, avant la fin de la semaine, quelqu'un qui aurait pu l'héberger et se porter garant qu'il ne recommencera pas la bêtise qu'il avait faite. Et moi, j'étais allé voir le juge, j'avais dit au juge, je me porte garant, je l'hébergerai chez moi pendant 1 an. Pendant 1 an, je l'hébergerai, je prendrai en charge sa nourriture, son école, tout. Je prendrai tout en charge et je me porte garant. Quand tu te portes garant devant un juge, c'est qu'en cas de problème, c'est toi qu'on vient chercher. Hein. C'est toi qu'on vient chercher. Et quand j'ai dit au juge, je me porte garant, le juge l'a fait sortir. Quand il est sorti, il est venu chez moi. Et quand il me dit, mais où était Dieu? J'ai dit, mais tu es où là? Tu te serais retrouvé pendant 3 ans en prison, jeune homme. Mais tu es chez moi. Dieu est toujours là, mon ami. Il est toujours là. Est-ce qu'on peut dire avec moi gloire à Dieu? Oh oui, on va finir. Donc, le partenaire qui découvre que l'autre a un complexe d'infériorité, il doit prier pour ce partenaire. Mais surtout, il doit lui témoigner beaucoup d'amour. Il doit être patient avec lui. Il ne doit pas le rejeter. Il doit l'encourager, l'aider à développer sa relation avec Dieu et l'encourager par des paroles positives. Et l'aider à rehausser son estime de soi, en investissant en lui, en investissant dans son capital confiance. Quand tu es avec quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même, ce n'est pas une raison pour le laisser tomber. Au contraire, tu dois l'aider. Tu dois l'aider à se développer, tu dois l'aider à se relever, de sorte que cette personne-là puisse demain être la personne idéale à épouser. La deuxième responsabilité que l'on doit avoir, c'est vous devez tous les deux grandir spirituellement et intellectuellement. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important, parce que tout simplement, quand spirituellement, il y en a un qui est beaucoup plus évolué que l'autre, ça peut au bout d'un moment créer un problème. Donc, quand tu commences à construire une relation sérieuse avec quelqu'un, tu dois veiller à la vie spirituelle de ton partenaire. Tu dois veiller à ça. Parce que souvent, quand on est avec quelqu'un, on a tendance à toujours marcher seul, à marcher en solo, et puis on laisse l'autre. Mais tu étais où? Tu n'étais pas à l'église ce matin? Parce qu'on est toujours à l'étape des fréquentations, hein. On est en train d'aller vers les fiançailles. Mais tu étais où? Je n'étais pas bien. Oh, je suis fatigué, je dormais. Mais ça fait au moins 3 semaines que tu ne viens pas à l'église. Mais non, ton église, là, franchement, ça me saoule. Je ne viens pas. J'ai plus envie d'aller là-bas. Problème. S'il faut aller tirer la personne de son lit, je viens te chercher tous les matins à 6h et puis on y va. Parce que je tiens à ce que spirituellement, on soit sur la même longueur d'onde. Amen. Et enfin, la troisième responsabilité, ne jamais se comparer à ton partenaire ou à une autre personne en dehors de votre couple. Jamais il faut faire ça. Jamais. Les comparaisons, ça détruit beaucoup de couples. Quel est le plus grand danger des comparaisons? Du fait que l'un a toujours tendance à se comparer à l'autre ou bien à quelqu'un d'autre. C'est que chaque fois que tu te compares à quelqu'un d'autre, tu lui donnes le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu fais ça. Ta vie sera déterminée par ce que cette personne dira de toi ou bien ce qu'elle sera pour toi. Oui, ta mère là, hein? Ta mère. Moi, je ne suis pas ta mère, hein? Moi, je ne prépare pas comme ta mère. Pourquoi tu me considères toujours comme si j'étais ta mère? Je ne suis pas ta mère. Hein? Pourquoi tu m'amènes ici? C'était ici que tu as mené ton ex avant, non? Pourquoi tu m'amènes ici? Je te fais penser à ton ex, c'est ça? C'est ça? Non. C'est juste un resto que j'aime bien, c'est tout. Mais tu avais mis ton ex ici. Donc, si tu m'amènes ici, tu penses à elle. Non! Toujours en train de se comparer. Hein? Et ça crée beaucoup de disputes, les comparaisons. Beaucoup de disputes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup de disputes. Donc, que retenir, pour finir, que retenir du seul à seul? La principale chose à retenir du principe du seul à seul avec Dieu, qui nous prépare au mariage, c'est qu'on a toute la latitude de poursuivre le cœur de Dieu et son plan pour sa vie. Et tant que tu n'es pas encore marié, tant que tu n'es pas avec quelqu'un, profites-en. Travaille, cours, cherche Dieu de tout ton cœur. Viens à l'église, bâtis une vie chrétienne solide, lis la Bible, investis-toi, consacre-toi, développe une intimité avec Dieu tous les jours. Cherche le cœur de Dieu, cherche tout le temps des révélations concernant Dieu, cherche à grandir. Et je t'assure que quand tu te marieras, quand tu entreras dans le mariage avec la personne que Dieu aura mise sur ton chemin, je t'assure, ce sera merveilleux. Est-ce qu'on peut dire avec moi amen? Seul à seul avec Dieu, tu as moins de distractions sentimentales. Il n'y a personne pour venir t'embrouiller avec les « je t'aime ». Tu es seul avec Dieu et tu dois bâtir une relation solide avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le message que je voulais nous faire passer. Avant de chercher à construire une relation sérieuse avec quelqu'un, les amis, construisons une relation solide avec Dieu. Notre intimité avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Et on doit s'assurer de ne jamais, jamais laisser qui que ce soit, même quelqu'un demain qu'on aimera, venir affecter cette relation-là. Jamais ne permet à quelqu'un, qui que ce soit, et même demain à ton mari ou à ta femme, de venir remettre en question ta relation avec Dieu. Jamais ne permet ça. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut incliner la tête? Gloire à Dieu. Je voudrais que tu pries et que tu demandes au Seigneur de t'aider à développer une relation d'intimité avec lui. Qu'il puisse se révéler à toi, non seulement qu'il puisse se révéler à toi, mais qu'il puisse t'amener à croître. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 2 que Jésus-Christ croissait en stature, en grâce et en sagesse. Dans la relation du seul à seul avec Dieu, demande-lui, Seigneur, que je puisse croître en stature, que je puisse croître en sagesse, que je puisse croître en grâce, que je puisse expérimenter des choses extraordinaires avec toi, que je puisse te connaître tout simplement. J'ai soif de connaissance. David a dit, mon âme soupire après un courant d'eau telle une biche. Mon âme soupire comme une biche après un courant d'eau. Que cette soif-là de Dieu, qu'il n'y ait que lui qui puisse la combler. Non pas quelqu'un qui viendra nous faire de beaux compliments, ou bien qui nous invitera, ou bien qui dira, veux-tu m'épouser? Cette personne-là, certes, deviendra quelqu'un d'important pour nous dans la vie, on l'aimera, ok, mais Dieu sera toujours le premier. On développera une relation parallèle avec cette personne, une relation mutuelle. Mais notre relation seule à seule avec Dieu doit toujours demeurer. Jamais quelqu'un ne doit venir affecter la relation que l'on a avec Dieu. Et jamais quelqu'un ne pourra venir remettre en question cette intimité. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ta parole qui édifie, qui éclaire, qui donne de l'intelligence. Merci pour le seul à seul. Merci Seigneur pour cette relation d'intimité que nous développons avec toi. Accorde-nous la grâce Seigneur de te connaître. Accorde-nous la grâce de te voir à l'œuvre dans nos vies, Père de grâce. Merci encore parce que tu nous enseignes, tu nous instruis afin que nous grandissions. Et tu nous accordes la grâce Seigneur de comprendre ces choses aujourd'hui. Parce que tout simplement tu nous aimes et tu veux que nous réussissions dans nos vies respectives. Tu veux que nous réussissions dans nos mariages, mais tu veux aussi que les plus jeunes, ceux qui ne sont pas mariés, Seigneur, puissent, Seigneur, eux aussi réussir dans leur mariage, réussir dans la phase de fréquentation, réussir dans la phase du seul à seul avec toi. Merci Père pour toutes les blessures. Merci Père pour tous les vides émotionnels que tu combles aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous les cœurs brisés que tu restaures. Merci Seigneur pour toutes les âmes perdues que tu retrouves et que tu ramènes à toi. Merci Père pour toutes les relations brisées que tu restaures au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes les erreurs que nous avons pu faire lorsque nous étions seuls. Merci parce que ces erreurs nous ont ouvert les yeux et nous ont fait comprendre l'importance de développer une relation mature et intime avec toi, Seigneur. À toi soit toute la gloire et à toi soit toute la louange. Je te rends grâce également, Seigneur, pour tous les couples mariés. Seigneur, tous les couples qui se sont engagés dans le mariage, qui ont commencé à bâtir un foyer et qui ont même des enfants, je te rends grâce parce que les erreurs qu'ils avaient faites dans le passé, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu les répares et tu restaures les cœurs brisés, tu restaures les âmes affectées et tu transformes ces couples en des couples merveilleux, en des couples, Seigneur, qui sont à ta gloire, Seigneur. Merci parce que lorsque les gens, Seigneur, regarderont à tous les couples, Seigneur, qui appartiennent à la maison du bâtisseur, ils puissent dire, là-bas, les mariages sont glorieux. Là-bas, Dieu est présent dans les familles et dans les foyers. Parce que, assurément, tu es le bâtisseur, celui qui bâtit nos vies, celui qui bâtit nos foyers, celui qui bâtit nos enfants, celui qui bâtit nos fiançailles, celui qui bâtit nos vies, tout simplement. À toi soit la gloire et à toi soit la louange, Père. Seigneur, continue encore de nous enseigner, de nous édifier tout au long, Seigneur, de cette série d'enseignements. Et que, Père de grâce, ton nom, Seigneur, soit glorifié dans nos vies. À toi la louange, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, gloire à Dieu.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.